Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, depuis un siècle, depuis 1909 exactement, la nouvelle revue française, la NRF, fait partie du paysage littéraire français et européen et demeure une référence. Comment et pourquoi est née cette revue? Quels en furent les pères fondateurs? Quelle en était la ligne éditoriale? Et quels écrivains y collaborèrent? Nul mieux que mon invité Robert Kopp ne peut répondre à ces questions. Lui qui a rassemblé les contributions des spécialistes réunis autour de ce centenaire de la NRF à la Fondation des Treilles, c'est dans le Var. Robert Kopp, bonjour.
Bonjour chère Hélène Renard.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de littérature française à l'Université de Bâle. Vous êtes historien de la littérature et des idées des 19e et 20e siècles, mais vous êtes aussi à l'aise avec Thucydide et Sénèque, je le sais. Vous êtes correspondant de l'Institut à l'Académie des sciences morales et politiques. Et vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages critiques, dont un célèbre Baudelaire, Le soleil noir de la modernité, et directeur de l'album Breton dans la Pléiade. Mais vous faites partie de ces gens dont on ne peut pas citer l'œuvre entière, ça serait trop long. Alors un mot d'abord sur l'ouvrage que je tiens entre les mains, cet ouvrage qui fait partie des cahiers de la NRF et qui s'intitule « La place de la NRF dans la vie littéraire du XXe siècle, 1908-1943, les entretiens de la Fondation des Treilles ». Alors qu'est-ce que la Fondation des Treilles ?
D'abord, merci de me recevoir pour ce volume, je suis ravi d'être à nouveau en votre compagnie. La Fondation des Treilles est une fondation qui a été créée par Anne Gruner-Schlumberger. Dans le midi de la France, c'est un énorme domaine avec toute une série de maisons d'hôtes, une grande maison où on se réunit, qui abrite aussi une bibliothèque. Et on peut y faire des colloques, quelle que soit la discipline d'ailleurs. Les scientifiques sont beaucoup plus nombreux en général que les littéraires. Mais l'idée est de se réunir une quinzaine, une vingtaine de personnes, du lundi soir au samedi matin, et de réfléchir ensemble à un sujet que l'on a travaillé au préalable, et de faire le point. Et ensuite, en tout cas pour ce qui me concerne, car j'ai organisé toute une série de colloques au Treilles, de faire un volume contenant les actes de ce colloque et plus que les actes, tenant compte aussi du résultat des discussions qu'on a pu avoir.
Alors justement, ce volume-ci sur la NRF regroupe exactement 18 contributions. Et parmi ces contributions, évidemment, je me suis arrêtée à celle de Dominique Fernandez de l'Académie française, à celle de Marie-Yvonne de Saint-Pulgent de l'Académie des Beaux-Arts. Vous-même, vous êtes de l'Académie des sciences morales et politiques comme correspondant. Alors ce fut vraiment une réunion un peu académique, mais pas tellement.
C'était une réunion académique d'un côté. D'autre part, il y avait aussi des écrivains et des éditeurs. Le premier d'entre eux était évidemment Antoine Gallimard, le petit-fils du fondateur de la maison qui porte son nom et aussi de la cheville ouvrière à partir d'un certain moment de la Nouvelle Revue Française qui a donné le nom à la maison d'édition qui en est sortie à un moment donné, avant la Première Guerre. Donc, un groupe assez éclectique, car l'idée des Treilles, c'est de croiser les regards. Alors, pour un sujet comme la NRF, évidemment, on n'invite pas nécessairement des psychanalystes, des juristes, mais néanmoins, on a invité des écrivains qui ont participé à l'aventure de la NRF, on a invité des historiens de l'édition qui connaissent bien ces problèmes-là, et puis des historiens de différentes périodes, d'avant la Première Guerre, de l'entre-deux-guerres, etc.
Robert Kopp, pour nos auditeurs les plus jeunes et peut-être aussi pour nos auditeurs qui nous écoutent de l'étranger, on va revenir au fondement de la NRF. Alors, à partir de quand parut le premier numéro et quels furent les pères fondateurs?
Eh bien, la revue a été fondée en 1909. Il a eu un faux départ, un numéro, aujourd'hui on dirait un numéro zéro, mais il est paru à la fin de l'année 1908 et les fondateurs n'en étaient pas très heureux, ils se sont recommencés à nouveaux frais l'année d'après. Alors il faut peut-être revenir un tout petit instant à la situation qui était celle des revues au tournant du siècle. Il ne faut pas oublier qu'à la fin du 19e siècle, il y a deux grandes esthétiques dominantes, le naturalisme d'un côté, le symbolisme de l'autre. avec deux figures marquantes, pour ne pas dire écrasantes, qui disparaissent, Mallarmé le premier, 2 ans avant la fin du siècle, Zola le deuxième, en 1902. Or, à la fois le courant symboliste, surtout en poésie, mais aussi le courant naturaliste, surtout dans le roman, se poursuivent, et on pourrait presque dire jusqu'aujourd'hui. Mais, à partir de la fin du XIXe siècle, il existe beaucoup de jeunes auteurs qui n'ont pas envie de s'inscrire dans l'un de ces courants. Il est normal que quand on arrive dans les lettres à 20 ou à 25 ans, on ne veut pas faire ce que faisait la génération des pères. La révolte contre la génération des pères est une chose naturelle. À toutes les générations, on peut l'observer. Donc, à la fin du 19e, on voit une multitude d'écoles, de groupes, de groupuscules qui, chacun, a une revue. Les revues se comptent par dizaines, pour ne pas dire par centaines. Alors, les uns voudraient, contrairement au symbolisme très ouvert, aux influences étrangères, anglaises et italiennes, revenir à la tradition gréco-latine, et alors cela donne l'école romane. D'autres voudraient que l'on ne s'intéresse pas seulement à l'individu, mais aussi au groupe, et ça donne l'unanimisme. D'autres encore estiment que ce qui caractérise les temps modernes, c'est le mouvement, la vitesse, l'énergie. Alors ça donne des mouvements comme le dynamisme, le paroxysme ou le futurisme. Et tous ces mouvements publient non seulement des manifestes, mais aussi des revues. Gide, qui est né en 1869, a donc une trentaine d'années à ce moment-là et entre dans la littérature comme jeune poète symboliste, mais ruant un peu dans les brancards et s'essayant aussi à d'autres choses. Et il participe tout à fait naturellement à plusieurs douzaines de revues auxquelles il donne ses contributions, des poèmes en prose, des réflexions sur toutes sortes de sujets, etc. Et il a dans l'idée, un jour, d'avoir une revue à lui. Mais comme Gide est quelqu'un qui a toujours envie de quelque chose et de son contraire, il voudrait bien avoir une revue, mais peut-être pas la diriger lui-même, tout en ayant une influence prépondérante. Ça, c'est tout à fait gidien, qui disait un jour « je suis de l'extrême centre ». Donc, il a groupé autour de lui Henri Guéon, Jacques Copeau, Jean Schlumberger, Michel Drouin, et ils ont décidé de faire une revue qui n'aurait pas de programme. Alors les autres revues publient des manifestes en disant « il faut faire ceci, il faut faire cela ». Alors la NRF ne publie pas de programme, mais s'ouvre sur des considérations de Jean Schlumberger.
Oui, parce que Gide disait qu'il voulait faire un regroupement d'esprits libres.
Absolument.
Alors, c'était un peu n'importe quel courant, mais enfin, en même temps, il faisait une sélection.
Oui et non. C'était à la fois très ouvert et en même temps, on s'accordait sur un certain nombre de valeurs. Alors, parmi ces valeurs, il y avait l'inscription dans la tradition française classique du point de vue de la langue, pour commencer. Et dans les considérations de Jean Schlumberger, il est fait référence à Du Bellay, Défense et illustration de la langue française. Donc, un des points forts, c'est Défense et illustration de la langue française. Et c'est pourquoi la NRF, par exemple, a toujours été un peu réticente, alors les uns un peu plus, les autres un peu moins, à l'égard de mouvements dits d'avant-garde qui malmenaient la langue française, comme par exemple les dadaïstes.
J'ai l'impression que vous les connaissez bien, puisque c'est votre contribution dans cet ouvrage. Vous avez parlé justement de cette relation entre la NRF
oui.
et les avant-gardistes.
Voilà. Pour montrer que la NRF était à la fois curieuse des avant-gardes, mais jusqu'à...
Sur ses gardes.
un certain point, exactement. Et puis, il y avait une limite qu'il ne fallait pas franchir. Lorsque on maltraite la langue, on n'entre plus dans la NRF. Alors, la poésie bruitiste qu'affectionnaient les dadaïstes, c'est-à-dire on aligne des sons, ou alors la poésie de non-sens, du genre je découpe les pages d'un dictionnaire, je les mets dans un chapeau, je lance tout en l'air et puis ça va retomber sous forme de poème, ce n'est pas du domaine de la NRF, comme le lettrisme plus près de nous n'est pas du domaine de la NRF. Donc la NRF veut qu'un écrivain, un poète, s'exprime de façon intelligible, car il faut garder une sorte d'équilibre entre l'expression, se dire oui, s'extérioriser oui, mais pas à n'importe quel prix. Il faut penser au lecteur, il faut penser au spectateur, on veut établir une communication entre les deux. Et l'expression pure, ou comme on dirait peut-être aujourd'hui, la performance pure de l'artiste un peu nombriliste, pour ne pas dire un peu autiste, eh bien, ce n'est pas du domaine de la NRF. En revanche, ceci posé, donc la nécessité absolue de communiquer avec un lecteur possible, ceci posé, la NRF est extrêmement ouverte. Elle ne veut pas, par exemple, s'inscrire dans une tradition purement nationale. Elle veut s'inscrire dans une tradition classique, mais de la littérature mondiale, un peu dans le sens de la Weltliteratur de Goethe. Il ne faut pas oublier que Goethe a été une des très grandes références de Gide tout au long de sa vie et il se serait assez volontiers vu, je crois, dans le rôle d'une sorte de Goethe français.
Mais les textes étaient publiés en français ou dans la langue de...
Non, les textes étaient publiés en français, mais la NRF s'est quand même fait la championne des littératures étrangères. Gide s'est intéressé aux romans russes et il était loin d'être le seul. Il s'est intéressé à la littérature anglaise et il a lui-même traduit, par exemple, du Shakespeare, ce qui n'est pas rien. À chaque génération, on a besoin de retraduire les très grands auteurs puisque la langue évolue et il faut essayer de les recréer dans la langue de la génération à laquelle on appartient. Et la NRF a aussi rendu compte très régulièrement de la traduction de livres anglais, américains, italiens, etc., etc. Donc, très ouvert ou très ouverte comme revue à l'égard des littératures étrangères et à l'intérieur de la Maison Gallimard, aussi très ouverte pour la publication de traductions.
Alors, Robert Kopp, vous avez dit que la NRF a été fondée en 1908-9, mais la date officielle, c'est 1909, finalement. Est-ce qu'il faut parler d'une NRF dans sa globalité ou est-ce qu'il n'y a pas plusieurs NRF dans la mesure où, selon les époques, avant-guerre et après-guerre, et selon les patrons qui dirigeaient, selon les directeurs, les figures de cette revue sont un peu différentes?
Oui, évidemment, on peut essayer de distinguer différentes périodes. D'abord, il y a les 5 années avant la Première Guerre. Il faut dire que la revue s'arrête au premier coup de canon. Pourquoi ? Non seulement parce que certains, pas tous, Gide par exemple était déjà trop âgé, étaient mobilisés les uns après les autres. Jacopo, qui était la cheville ouvrière du point de vue matériel et qui avait parallèlement fondé le Vieux Colombier, qui était un peu le théâtre de la NRF, un théâtre aussi qui voulait mettre au centre de l'intérêt le respect du texte et non pas faire un théâtre de metteur en scène où le texte n'est qu'un prétexte pour des jongleries diverses et variées. Copo partait avec sa troupe en tournée aux États-Unis et en Amérique latine. Et d'autre part, les esprits étaient mobilisés.
Évidemment, on avait d'autres soucis.
Les esprits étaient mobilisés et se faisaient embrigader, on pourrait presque dire, par la propagande patriotique. Et ceci des deux côtés du Rhin, bien entendu. Or, la NRF n'aimait pas ce patriotisme à la manière de Barrès, n'aimait pas ce nationalisme à la manière de Maurras. Et donc, c'était une raison supplémentaire de ne pas paraître. Lorsque la revue reparaît en 1919, une grande question se pose, comment continuer ? Peut-on fermer une parenthèse ? Est-ce que la guerre de 14-18 n'a été qu'une parenthèse ? Ou est-ce que la guerre de 14-18 n'a pas été une sorte de cataclysme, une sorte de guerre du Péloponnèse qui ruinait les fondements même de la civilisation européenne? Car il ne faut pas oublier que les Français ont fait la guerre au nom des valeurs de cette civilisation contre la barbarie allemande et les Allemands ont fait la guerre au nom des mêmes valeurs de la même civilisation contre la décadence française, en quelque sorte. Donc, ces valeurs de la civilisation étaient par terre. Alors, comment continuer quand on a 45 ou 50 ans, quand on a déjà une œuvre ? Ceux qui sont venus plus tard,
le groupe d'André Breton et les Surréalistes. Eh bien, eux, ils voulaient faire tout à fait autre chose. Ils s'installaient d'abord dans la dérision de cette civilisation, dans la dérision de tous ceux qui s'étaient laissés embrigader d'un côté ou de l'autre et estimaient qu'il n'y avait plus possibilité de faire des livres comme on en avait fait auparavant et peut-être même plus possibilité de faire de livres du tout. Mais quand on a une œuvre comme Gide, comme Claudel, comme Proust, etc., etc., il faut la continuer, éventuellement la mener à bon terme. Et il y a une grande discussion dans les années 1920, 21, 22 au sein de la NRF. Faut-il rester mobilisé en quelque sorte ? Va-t-on exalter les valeurs françaises contre une Allemagne que d'aucuns soupçonnaient déjà de méditer quelques revanches ? Et le traité de Versailles, évidemment, n'était pas fait pour apaiser ces craintes. Et d'autres qui disaient non, il faut revenir à la littérature pure, il faut oublier la politique, la littérature et la politique ne font pas bon ménage. Et c'est ce deuxième courant qui, dans un premier temps, l'a emporté. Donc on revient à la littérature qui s'occupe d'abord de la littérature et qui n'est qu'incidemment ou accessoirement politique. Et dans les années 30, ça change. Dans les années 30, il y a la montée des totalitarismes, le stalinisme d'un côté, le fascisme de l'autre. Il est difficile de ne pas prendre position.
On n'est plus dans la parenthèse. Là,
on n'est plus du tout dans la parenthèse, on n'est plus du tout non plus dans le retrait par rapport à ce qui se passe en Europe. Et on ne peut pas non plus fermer les yeux devant l'évidence que l'Europe va vers une nouvelle guerre ou un nouvel affrontement. Donc, dans les années 30, la revue devient par moment plus politique. Il faut dire que le nombre des collaborateurs étant très grand, on ne peut pas parler de ligne. Et le directeur, d'abord c'était Rivière, ensuite c'était Gaston Gallimard, mais par délégation c'était Paulhan, ensuite c'était Paulhan en titre, et après il y a eu l'épisode de la guerre. Donc le directeur voulait surtout attirer des articles de qualité. Mais on sait que certains s'engageaient, les uns un peu plus à droite, les autres un peu plus à gauche. Gide était proche,
c'est merveilleux, cette
était grande... proche des communistes dans les années 30, a fait le voyage en URSS et en est revenu dans tous les sens du terme, ce que le Parti communiste ne lui a pas pardonné, bien entendu. Mais il était aussi anticolonialiste, qui était plutôt une position de gauche. À l'époque, au moment où on célébrait encore l'Empire français, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, la France était un empire et la dernière expédition coloniale, c'était 1931. Et si on prend le catalogue de l'époque, il y a une préface où on vous explique qu'il faut rendre populaire l'idée coloniale. 8 millions de visiteurs à cette exposition qui s'est tenue dans le parc de Vincennes.
On a trop tendance à oublier ces données, j'allais dire, historiques, d'histoire des mentalités, en vérité, qui influencent la littérature, qui influencent directement les écrivains.
Évidemment. Alors, Gide n'a pas seulement fait le voyage en URSS, il a aussi fait le voyage au Tchad, le voyage au Congo. Il a dit qu'il est absolument impensable qu'on puisse continuer à avoir des colonies en Afrique de cette manière-là. C'est indigne. De toute façon, ces peuples sont appelés plus ou moins tôt, plus ou moins tard, à s'occuper eux-mêmes de leur destin.
C'était il y a juste 60 ans. C'est pas si vieux que ça.
C'est pas si vieux que ça, non. Et la même chose, évidemment, pour Malraux qui est allé en Indochine et a fait le même constat.
Avec Robert Kopp, nous évoquons la NRF, donc dans la vie littéraire du début du XXe siècle. On va marquer une courte pause avant de se retrouver juste ensemble. Retour dans notre studio, juste après la musique.
Les hommes préhistoriques étaient-ils artistes ? Oui, assure Philippe Serres, philosophe, critique d'art. Forme de communication, l'art est un échange entre le créateur et le spectateur qui n'a jamais cessé d'être fécond depuis que l'homme est homme. Il traduit une réalité sensible. Quand commence l'art ? Peut-on donner du sens aux images de la préhistoire ? Écoutez les explications de Philippe Serres dans notre émission « Éclairage », l'art de la préhistoire à nos jours, une émission en libre écoute et libre téléchargement sur Canal Académie.
On retrouve dans notre studio Robert Kopp, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, mais surtout professeur de littérature française à l'Université de Bâle, en Suisse, et coordinateur et justement organisateur de ce colloque de la Fondation des Treilles sur la place de la NRF dans la vie littéraire française. Alors, j'avais envie de vous poser deux questions, ou en tout cas de vous faire parler sur deux événements qu'on ne peut pas passer sous silence. En 1911, l'arrivée de Gaston Gallimard, et en 1943, le rôle de Drieu La Rochelle. Alors, premier.
L'arrivée de Gaston Gallimard a été d'une importance absolument capitale, car ce groupe d'esprits libres, ces écrivains qui s'étaient réunis pour faire une revue, dans l'espoir de ne pas faire une revue de plus, car il y en avait énormément, eh bien, leur ami commun Gaston Gallimard avait, outre un grand sens littéraire et une grande sensibilité à l'égard de la peinture, le génie des affaires. Et il a réussi à diffuser la revue à travers le monde et il a fondé dans le sillage de la revue, en 1911, un comptoir d'édition. C'était ainsi que cela s'appelait d'abord. Et ce comptoir d'édition publiait essentiellement des textes d'auteurs qui, par ailleurs, publiaient également dans l'ANRF. Alors, parmi les premiers auteurs publiés, il y avait évidemment Gide, Claudel, mais aussi Louis-Philippe, puis Valéry et beaucoup d'autres. Et ce comptoir d'édition de l'ANRF, la revue était première, le comptoir était second. Ce comptoir d'édition s'est assez rapidement émancipé de la revue et est devenu une maison d'édition qui a porté le nom de Gallimard dès les années 1919 et 20. Donc, la revue était maintenant seconde par rapport à la maison d'édition et son rôle était au fond d'aspirer les bons auteurs, de publier leur contribution pour que ensuite la maison d'édition puisse ou réunir ses publications en volume ou alors donner le texte en entier alors que la revue n'avait donné qu'un premier chapitre par exemple. Donc la revue servait, comment dire, d'une image peut-être un peu familière, d'aspirateur pour essayer d'attraper les bons auteurs et de les transmettre à la maison d'édition. Et cela a réussi au-delà de toute espérance, puisque si vous regardez le fond de la maison Gallimard, eh bien ce fond, c'est quasiment la littérature française du XXe siècle, à très peu d'exceptions près. Et quand un auteur a échappé à la maison Gallimard, Gaston Gallimard a tout fait pour le rattraper. Proust, d'abord, n'avait pas été publié dans la maison Gallimard. Son roman avait même été refusé. Mais dès qu'il a paru ailleurs, Gaston a essayé de le ravoir et a réussi de l'avoir. Céline n'était pas d'abord publiée dans la maison Gallimard, mais Gaston n'avait de cesse pour le rattraper. Donc, on peut dire que ce que la littérature française a produit de plus brillant, de plus profond, de plus universel aussi, dans la première moitié au moins du XXe siècle, et maintenant, dans le fond, Gallimard.
Ça ne laissait pas beaucoup de place pour les autres, qui s'en sont tout de même tirés, mais enfin, c'était quand même une espèce de monopole, en tout cas pour la littérature, mais l'édition comporte beaucoup d'autres domaines, heureusement pour elle. Alors, l'autre événement, c'est la reparution de la revue en pleine occupation, c'est-à-dire jusqu'à son arrêt final en 1943. Donc, au début de la guerre, elle s'arrête?
Oui. Alors, les Allemands arrivent à Paris, tout s'arrête et ils mettent des scellés et à la revue et à la maison d'édition. Seulement, la maison d'édition, ça fait vivre beaucoup de monde. Non seulement les auteurs, mais aussi tous ceux qui travaillent dans la maison, y compris les imprimeurs, etc. etc. Et puis, il y a eu négociation, entre guillemets, contre l'abandon de la revue. La maison a pu continuer ses activités. Alors, qu'est-ce que signifiait abandonner la revue? Lui donner un directeur qui était agréé par l'occupant. Et c'était le cas de Drieu La Rochelle, qui avait parcouru tout le spectre des différentes sensibilités politiques, qui a été proche des surréalistes au début de sa carrière, qui avait encore fait la Première Guerre, qui en a été traumatisé, comme tous ceux qui l'ont faite. et qui, petit à petit, par dégoût de ce qu'il observait ou croyait observer autour de lui, par dégoût de ce qu'il appelait la décadence française, s'est de plus en plus rapproché du fascisme.
Au point de devenir un auteur quasi maudit maintenant.
Pas tout à fait, car d'abord, c'est un grand écrivain, en dépit de ses égarements politiques, un peu comme Céline est un grand écrivain, en dépit de ses livres antisémites, qui d'ailleurs ne sont pas réimprimés. Mais Drieu est un auteur qu'on regarde avec une certaine suspicion, qu'on prend un tout petit peu avec des pincettes, mais son journal, qui n'est pas toujours agréable à lire, car il y a des sorties contre certains groupes de la population française, a tout de même été publié chez Gallimard récemment. Le texte a été établi par des historiens extrêmement sérieux de la littérature. Il y a une grande préface de Pierre Nora, qui est vraiment un historien au-dessus de tout soupçon, pour expliquer pourquoi ce document était absolument indispensable. Drieu, qui avait un penchant suicidaire depuis sa jeunesse, s'est fait justice lui-même avant d'être traduit en justice, comme c'était le cas de son ami Robert Brasillach.
Un dernier mot, Robert Kopp, juste pour dire au sein de la NRF, cette immense mouvance littéraire, quels furent les académiciens de l'Académie française, je ne pense pas qu'il y en ait eu d'autres académies, mais enfin je ne sais pas tout, qui participèrent à ce pan de la littérature française.
Alors je dois avouer ma grande honte, en me préparant pour notre entretien, je n'ai pas fait la liste.
Ah, vous n'avez pas comme moi le regard orienté sur les académies.
Je n'ai pas fait la liste, j'aurais dû y penser, mais peut-être qu'inconsciemment je me suis dit elle va être tellement longue que de toute façon il sera facile de citer un certain nombre de noms. D'abord, parmi les derniers directeurs, il y a eu des académiciens français. Marcel Arlan a été de l'Académie française. Jean Paulhan a été de l'Académie française. Ce qui d'ailleurs, petite anecdote, leur a valu quelques remarques un peu ironiques de la part de Gaston Gallimard, qui estimait qu'un écrivain n'avait pas à appartenir à quelque corps que ce soit, fût-il extrêmement prestigieux.
Aussi Claudel, mais vous l'avez déjà dit, Valéry, Paul Morand, qui lui aussi a été un écrivain qu'on a un peu écarté à cause de ses choix politiques, Julien Green, Jacques de La Crotelle, enfin, moi j'en ai relevé un peu plus, mais il y en a eu énormément.
Maurice Genevoix, sauf erreur, Jean Mistler, donc l'Académie française elle-même, et d'autres académies sont fort bien représentées tout au long de ce siècle.
Merci Robert Kopp. Je voudrais dire plusieurs petites choses. D'abord qu'on peut trouver une autre émission avec vous sur le site de Canal Académie, puisque vous venez de donner, en cette fin du mois de novembre 2009, une communication à l'Académie des sciences morales et politiques qui présente le modèle universitaire de la Suisse, ou plus exactement de la Confédération helvétique. Vous avez mis la nuance, qu'on peut trouver aussi sur Canal Académie une autre émission sur la NRF, mais qui couvre uniquement les années 1914-1925.
Peut-être peut-on ajouter qu'actuellement, à l'IMEC, à Caen, à l'Institut des manuscrits modernes, on peut voir une grande exposition retraçant un siècle de revues, une exposition qui avait été montrée d'abord à la bibliothèque Bodmer de Genève et qui est maintenant à Caen, enrichie surtout par le fonds Paulhan qui s'y trouve.
Merci de cette précision. Donc je rappelle le titre de ce livre dont nous avons parlé, « La place de la NRF dans la vie littéraire du XXe siècle 1908-1943 » et ce sont les entretiens de la Fondation des Treilles à l'initiative de Robert Kopp. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt.